Bonjour à tous, il est 11h, vous êtes sur Fréquence Mistral et nous retrouvons François Malabaf pour une émission spéciale au cœur des correspondances de Manosque. Bonjour François.
Bonjour Amandine, bonjour à tous. Et au programme de cette émission, nous allons parler de littérature, ce qui est normal pendant les correspondances. Nous aurons des interviews d'Alice Zénitaire pour son superbe livre « L'art de perdre » et puis Miguel Bonnefoy également répondra à mes questions sur Sucre Noir. Nous attendons Joyce Ormand pour « Science de la vie » et nous accueillerons aussi Victor Poucher pour « Pourquoi meurent les oiseaux ?» Une belle émission littéraire déjà. Et tout de suite, nous allons écouter Olivier Chaudançon, le directeur des correspondances de Manosque La Poste 2017 et qui nous parle du programme de ce week-end.
Olivier Chaudançon, ce week-end s'annonce exceptionnel.
En tout cas, exceptionnellement chargé. On démarre là, comme chaque matinée, avec l'apéro littéraire et une affiche très particulière et remarquable, Mariam Majidi, que le comité de lecture avait lu l'année dernière lorsque son texte n'était alors qu'un manuscrit non publié. Depuis, il a été publié par le Nouvel Attila et de surcroît, il a gagné le Goncourt du premier roman. Donc, c'est particulièrement fort que de recevoir Mariam Majidi dans ces conditions-là. Et elle dialoguera avec quelqu'un que les gens de Manosque connaissent bien, Alice Zénitaire, notre ancienne résidente, auteure d'un livre splendide qui s'appelle « L'art de perdre ». On va poursuivre la journée avec, à 14h30, comme à l'accoutumée, une sieste acoustique, celle de Bastien Lallemand et ses invités. À 15h, plusieurs choix pour les festivaliers, soit écouter un plateau qui nous vient d'Haïti, avec Louis-Philippe d'Alembert, un roman remarquable qui a d'ailleurs reçu le prix Orange du livre cette année et qui sera aux côtés de James Noël, qui signe son premier roman mais que l'on connaît bien comme poète, James Noël. Et il y aura également à la même heure Grégoire Bouillet, l'auteur d'un livre époustouflant, vraiment, je pèse mes mots, un livre de 900 pages qui s'appelle Le dossier M. On est complètement aspiré dans le cerveau de quelqu'un qui va nous raconter tout sur une histoire d'amour, ce qui s'est passé avant, pendant, après, sa vision du monde. C'est un livre encyclopédique, c'est un livre extrêmement drôle, c'est vertigineux, je le recommande absolument. Et puis, à la même heure, sur une autre tonalité, une lecture d'Éric Reinhardt, son livre « La chambre des époux », il sera accompagné par une chanteuse lyrique, Léa de Sandre. À 16h30, beaucoup de choix possibles pour les festivaliers. Écoutez Jean-Marie Blas de Robles et Brigitte Giraud, qui l'un et l'autre ont écrit un livre très fort, autobiographique, sur l'Algérie. Ou alors écoutez Marie-Hélène Lafont, qui est une écrivaine habituée des correspondances. Ou encore écouter un dialogue entre Mathieu Young et David Lopez. David Lopez qui a écrit un premier roman, Fief, aux éditions du Seuil, qui à mon sens est un des premiers romans les plus remarquables de cette rentrée. Ou encore écouter Marie Dariussecq qui viendra lire des extraits de son dernier ouvrage. À 18h, un dialogue qui se promet d'être très fort entre Justine Augier, qui livre une sorte d'enquête autour d'une disparition en Syrie et qui dialoguera avec Mazarine Pinjot autour de son dernier livre. Un autre dialogue à 18h pour ceux qui voudraient faire un autre choix, c'est Clément Bénèche, jeune écrivain qui dialoguera avec un de ses amis les plus proches, François-Henri Désérable, qui lui aussi publie un livre, un certain Monsieur Piquilny, livre qui s'intéresse à un personnage évoqué par Romain Gary dans La promesse de l'aube. Désérable essaiera d'aller à la recherche de ce personnage pour voir s'il a existé et qui il était, ou alors si au contraire il n'est que le produit de l'imagination de Romain Gary. Je ne vous livre pas le résultat de son enquête. À 18h, une lecture de Célia Oudard, et puis un tout petit peu plus tard, 18h30, Joyce Ormond qui vient faire une lecture musicale parce que accompagnée du musicien Rubin Steiner. À 21h, la grande lecture qui se promet d'être magnifique puisque elle concerne l'œuvre d'Henri Michaud. Alors les lettres d'Henri Michaud, qui était quelqu'un d'un peu grincheux, qui disait souvent non quand on lui proposait des choses, mais il le disait de mille façons et de façon souvent très très drôle, parce que un peu grincheux et un peu mordant. Et puis pour faire entendre une autre facette d'Henri Michaud, il y aura aussi des extraits d'œuvres plus poétiques. En En tout cas, je vous assure que ce sera magnifique. J'ai cette certitude-là parce que le comédien Pierre Beau est un lecteur absolument exceptionnel. Nous terminerons en musique avec Les Garçons Manqués. On les connaît, c'est Nicolas Rey, écrivain, Mathieu Saïkali, chanteur. C'est une sorte de ping-pong. L'un lit, l'autre chante et fait des reprises de chansons. Et puis dimanche, dernière journée du festival, mes journées bien remplies. On démarre avec Kamel Daoud. Nous sommes heureux de le retrouver. On l'avait invité pour son premier livre, Le Minotaure 504. Le revoilà avec une sorte d'ode à la littérature, à l'écriture, à la langue française, un livre très fort. En face de lui, Apéro littéraire, pour ceux qui choisiraient cette option, qui rassemblera Jean-Marie Blas de Robles et Marie-Hélène Lafont. En début d'après-midi, 14h30, rendez-vous avec Yannick Hennel, qui signe un très beau livre, très drôle, très rocambolesque, très inattendu, mais plein de poésie. À 15h, place de l'Hôtel de Ville, notre star, Alice Zeniter, et son L'Art de Perdre, un des livres les plus repérés de cette rentrée littéraire. Ou alors, on pourra aussi écouter Yakuta Alika Vazovic, qui sera en dialogue avec Agnès Mathieu Daudet. Les dernières rencontres du festival à 16h30, un grand entretien avec Patrick Deville, une rencontre avec un premier roman remarquable aussi, celui de Sébastien Spitzer, ou alors une lecture musicale avec Pierre Ducrozet, là encore un ancien résident des correspondances. Il lira son dernier livre en musique, accompagné par Isard Cambray. Et puis, clôture du festival de façon marquante et drôle, je peux le supposer, Philippe Catherine, qui viendra lire deux petits livres qu'il vient de signer, « Ce que je sais de la mort », Ce que je sais de l'amour, c'est drôle, c'est incisif, c'est étonnant, il y aura aussi de la musique, il y aura aussi de la projection. Voilà, je vous laisse la surprise de découvrir ce programme concocté par Philippe Catherine en clôture de ses 19e correspondances de Manosque.
Retour en plateau, vous êtes bien sur Fréquence Mistral et c'est l'émission en direct des correspondances. Il y a beaucoup d'auteurs en ce moment sur Manosque, profitez donc bien sûr des correspondances. Nous en profitons aussi de notre côté et nous profitons du fait de pouvoir trouver et de pouvoir discuter avec des auteurs de leurs écrits. Par exemple, Miguel Bonnefoy. Manosque connaît bien déjà Miguel Bonnefoy, qui est un écrivain français et vénézuélien à la ferve intarissable et colorée, mais Manosque le connaîtra encore mieux l'année prochaine, puisque ce dernier y accomplira une résidence d'écrivain dans le cadre des correspondances. En attendant, et pour l'instant, Miguel Bonnefoy est venu présenter son dernier roman, Sucre Noir, paru aux éditions Rivage, une saga rocambolesque qui se déroule au Venezuela. On y suit une famille de paysans avides et cupides, mais comment peut-il en être autrement lorsque l'on sait que le trésor du pirate des Caraïbes Henry Morgan n'a jamais été retrouvé et pourrait être à portée de main de Serena Otero et des siens. C'est d'ailleurs Henry Morgan qui ouvre ce livre deux siècles avant l'histoire. Son vaisseau, ses hommes et son trésor sont échoués sur un arbre dans la forêt vénézuélienne. Ne vous demandez pas pourquoi, il s'agit de littérature. Et comme souvent, avec Miguel Bonnefoy, le fantastique l'a rejoint avec jubilation. C'est le cas dans Sucre Noir. L'auteur n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, mais il m'a accordé une interview que je vous propose d'écouter.
Vous avez écrit Sucre Noir. Avant de parler de votre livre, je vais vous poser quand même la première et la question la plus importante, probablement. Où est le trésor d'Henry Morgan?
Le trésor d'Henry Morgan est probablement dans le cœur de Serena Otero et dans la relation entre Candelaria et Ezequiel, et probablement également dans le désir violent et ardent de Severo, et il est dans cette fougue, cette apothéose de Eva Fuego. Le trésor de Henry Morgan se trouve au début du livre, tout le monde le cherche alors qu'ils sont déjà assis dessus.
Ça se passe évidemment au Venezuela et c'est une drôle d'histoire parce que ce fameux trésor d'Henry Morgan, le pirate du XVIIe siècle, est sur un arbre dans une forêt et on cherche ce trésor pendant tout le livre. Tous les personnages que vous avez décrits sont les personnages de votre livre et c'est une quête et en même temps c'est un voyage au pays du rhum, au pays du sucre, au pays de la chaleur, un pays paysan également.
Tout à fait, j'avais envie de continuer après le voyage voyage d'Octavio et après mon autre livre Jungle, de continuer à creuser cet hymne au Venezuela, la manière de rendre hommage aux différentes personnes, ma famille, mes amis et également le peuple vénézuélien qui est de l'autre côté de l'océan et qui essaie de se battre comme ils peuvent pour un monde meilleur. L'idée était alors de pouvoir parler de cet imaginaire, mais pour pouvoir parler de cet imaginaire, il me fallait une allégorie, il fallait une fable, il fallait une parabole. Alors quoi de mieux de pouvoir parler des pirates des Caraïbes, de pouvoir parler du rhum, de parler des chasseurs de trésors, des chercheurs d'or, des femmes puissantes, des fêtes magistrales, des fermes distilleries, des longues plantations de canne à sucre qui s'étendent sur des collines vertes. L'idée était écrire un roman qui est également ce doux amer, ce sucre noir, cet oxymore dans lequel on retrouve à la fois la beauté, la puissance, la force, la souveraineté du Venezuela et à la fois la tragédie, le drame et les douleurs qu'on y trouve.
Avec quelques symboles, évidemment le symbole de la famille, vous l'avez évoqué, et puis ce dernier personnage, Eva Fuego, aussi avec un nom très symbolique, la première femme, et puis le feu purificateur, ça on en a évidemment conscience en lisant surtout la fin de votre livre. Il y a aussi des éléments et quelques symboles particulièrement étonnants, par exemple une statue de Diane Chasseresse.
J'aimais l'idée, à l'intérieur du livre, de créer comme des cercles, c'est-à-dire partir de la base de Baudelaire, de user le glaive et périr par le glaive, c'est-à-dire que les personnages qui sont élevés par quelque chose vont également mourir par cette même chose. Si Severo Bracamonte trouve la statue de Diane, eh bien c'est la statue de Diane qui tombe sur lui et qui le tue. Si Eva Fuego naît du feu, eh bien c'est le feu également qui va la tuer. Si Serena est en train de chercher le trésor ici, eh bien c'est finalement le trésor qui va la trouver elle d'un autre côté. L'idée était sans cesse de créer des sortes de petites boucles comme les grands maillons d'une chaîne qui puisse également cette chaîne être un sort de serpent qui se mord la queue et avoir un roman qui fonctionne un peu comme les dessins de Escher, c'est-à-dire avec ces escaliers qui finissent là où il commence. Donc quelque part, le début du livre est aussi la fin, et à l'intérieur, on trouve des petits cercles, rappelle peut-être les châtiments des enfers avec Sisyphe, avec Tantale, avec les Danaïdes, dans lesquels quelque part on est tous fatalement dans une sorte de destinée humaine et on ne peut pas échapper à un éternel retour de soi-même.
Il y a aussi un élément qui nous parle, à nous, en termes de radio, c'est évidemment la radio. La radio qui joue un rôle important pour toucher l'extérieur dans votre livre.
Absolument. Et j'avais entendu cette histoire dans certains villages des Caraïbes dans lesquels les radios étaient tellement locales que les paysans parvenaient à s'envoyer des informations et des messages entre eux de maison à maison. Donc là, on vendait des enchères, on faisait l'heure des abattages, ça nous permettait également de savoir quels étaient les horaires des caravanes qui passaient. Donc la radio devenait une sorte de personnage fondamental qui faisait le trait d'union entre les différentes personnes et ça permettait de créer une sorte d'annonce publique de tout. J'ai trouvé belle l'idée d'annoncer au-delà des heures des abattages, au-delà des prix de vente de la charcuterie ou des cochons, également l'amour.
Et effectivement, c'est « Je cherche un mari », le message. Dans votre livre aussi, il y a une fin qui est paroxysmique, très particulière, avec une scène qui est une scène cinématographique, on pense à l'Exorciste ou à Alien, par exemple. On va pas dévoiler tout ça, mais où est-ce que vous cherchez toutes ces idées, Miguel ?
Encore une fois, je pense que le livre, avec sa structure narrative, finit par t'amener là où tu ne voulais pas vraiment aller. C'est-à-dire, c'est souvent le livre qui, lui-même, pendant son écriture, arrive à créer de nouveaux sentiers, fait des nouveaux chemins, ouvre, comme à la machette, avec la machette de la langue, ouvre un nouveau sentier à l'intérieur de cette jungle, et on avance un peu à l'aveuglette, on avance à tâtons. Moi, je savais où je voulais arriver, plus ou moins, à peu près jusqu'à la moitié du livre. Et je m'étais dit, je vais d'abord écrire la moitié du livre, et lorsque j'arriverai à la moitié du livre, les personnages auront déjà suffisamment de chair et d'os, auront déjà un caractère, auront déjà une personnalité, auront déjà une forme d'humour, et sauront alors me guider eux-mêmes vers quelque chose. Et c'est Serena Otero qui, elle-même, a finalement pris le chemin pour arriver jusqu'à sa maison d'origine et découvrir ceci qu'on ne va peut-être pas dire.
Et qu'il faudra voir jusqu'à la fin de votre livre, et c'est une scène extraordinaire. Vous avez aussi, évidemment, dans votre livre, magnifié, entre guillemets, la réussite sociale, la réussite financière, et évidemment, on ne peut pas occulter le thème central du livre, en fait, c'est la cupidité.
Absolument. La cupidité, également la cupidité du siècle vénézuélien qui a créé une rente pétrolière quand ils ont découvert le pétrole dans les années 20 à Santa Lucia. Et à partir de là, le Venezuela a arrêté de produire et s'est mis à importer. Peut-être, eh bien, quelque part, les personnages du livre ressemblent un peu aux gens du pays qui ne se sont pas rendus compte que le vrai or était dans les patiences agricoles, était dans la récolte du maïs, était dans la culture du sucre, la culture du coton, la culture du tabac, et non pas à quelques pieds sous terre, dans un coffre scellé de 12 clous d'argent. L'idée était de montrer à quel point, de la même manière qu'Eva Fuego, qui va essayer de prendre ce trésor pour le transformer dans une sorte d'apothéose, une sorte de crescendo, une sorte de montée comme ça vers le ciel, et à la manière d'Icare, dans quelque chose d'un peu mythologique, elles finissent par se brûler les ailes d'or, pour faire une chute en un seul chapitre.
Il y a également un élément épicurien ô combien important, c'est le rhum.
Tout à fait. De la même manière que peut-être un Français, pour parler de son pays, il va parler de la vigne, et ça permettra de faire une sorte de filtre, une sorte de premier entonnoir, une sorte de background, comme ça, une toile de fond pour pouvoir parler de la France. De la même manière que le Russe va pouvoir parler, par exemple, de la vodka, pour pouvoir donner un imaginaire, un parfum, une odeur de son pays. Eh bien, même spectacle, l'idée était de parler des Caraïbes, et donc, utilisant le rhum. Avec le rhum, il y a en plus, là, une couleur qui vient immédiatement, qui est cette couleur miel, cette couleur ambre, cette couleur cuir, cette couleur ocre, comme ça un peu fût de chêne, qui me plaît énormément. Et j'avais envie de voir si je pouvais écrire un livre qui ressemblerait à cette couleur. Je ne sais pas si c'est réussi ou pas, mais une chose est sûre, c'est que j'ai vraiment cherché l'éventail de cette couleur pour voir si mes mots parvenaient à la décrire.
Vous n'êtes pas sponsorisé par une romerie?
Pas encore.
Miguel, vous êtes en représentation, entre guillemets, ici à Manosque pour les correspondances, un festival que vous connaissez bien. Vous allez aussi bientôt être le résident. Olivier Chaudançon nous l'a annoncé, l'écrivain en résidence en 2018. Comment vous approchez cette résidence et comment vous appréhendez les correspondances de Manosque?
C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté la proposition d'Olivier pour pouvoir commencer dans les résidences d'écriture de Manosque, parce que ça me permet d'être loin des distractions de la capitale. Ça me permet également d'être loin aussi de toute la promotion du livre, des rencontres littéraires, des festivals, des salons que j'aime énormément faire, mais j'aime également revenir à la patience, à la solitude, au silence, à l'isolement de la lecture et de l'écriture. Quand j'étais à Saint-Pierre d'Albigny, près de Chambéry, avec la Fondation Facim, grâce à Mathilde Walton, j'avais pu faire ma première résidence d'écriture et j'avais écrit Le Voyage d'Octavio. Ensuite, dans ma deuxième résidence, c'était à la Villa Marguerite Yourcenar, entre Lille et Dunkerque, à la frontière belge, et je garde un souvenir sublime, et c'est là que j'ai pu écrire Sucre Noir. Alors je suis vraiment heureux de voir que c'est à Manosque que j'écrirai mon troisième roman.
On vous attend avec impatience. Merci Miguel Bonnefoy, à bientôt.
Merci beaucoup.
Miguel Bonnefoy, que nous attendons avec impatience à Manosque pour sa résidence. Et puis, parmi les auteurs qui ont passé des résidences, certains ont fait une belle carrière, et c'est le cas actuellement d'Alice Zeniter, qui a effectué une résidence d'écrivain pour les correspondances de Manosque. Elle y a laissé d'excellents souvenirs. Elle a aussi tissé des liens d'amitié avec bien des personnes. Son dernier roman est un pavé de 500 pages, L'art de perdre, et la plongée dans l'histoire d'une famille, sa famille, originaire de Kabylie en Algérie, est obligée de quitter le pays après les accords d'Évian en 1962. Ali, sa femme Yema et leurs enfants connaîtront le camp de Rivesaltes de tristes mémoires, puis le logis d'Anne à Jouk, à 40 km de Manosque, tout aussi peu accueillant et qu'a visité l'auteur, de même que le musée mémoriel d'Ongles dans les Alpes-de-Haute-Provence lors de sa résidence. Ainsi est née l'idée chez Alice Zeniter d'un livre sur le passé des Harkis, plus du tout algérien et pas vraiment français. Un demi-siècle après, les blessures sont vives, le silence, le rejet, les regrets et surtout, les questions sont nombreuses. La petite fille d'Ali, Naïma, aura l'opportunité de retourner en Algérie pour une mission artistique. C'est son regard que le lecteur épouse, un regard tendre mais forgé de culture française. Le choc est là. La place de la femme, de la famille, le poids du passé, comment partager tout cela quand en plus l'absence de la langue alourdit les rapports? L'art de perdre est un roman magnifique qui pourrait bien être couronné d'un ou plusieurs prix cette année. Déjà, Alice Zeniter a reçu le prix littéraire du Monde. Je vous propose de l'écouter, Alice Zeniter, donc dans une interview aussi littéraire que personnelle.
Alice Zeniter, pour qui est-ce que vous avez écrit L'art de perdre ?
Pour tout le monde, c'est-à-dire à la fois pour tous ceux qui ne connaissaient pas cette histoire et qui pouvaient la découvrir, et pour tous ceux qui la connaissaient mais qui avaient été tenus loin de la littérature toute leur vie.
Ceux qui connaissaient cette histoire, autrement dit, beaucoup de la population algérienne, beaucoup de la population française et évidemment la population harki, c'est un peu votre famille.
Alors, le terme de harki, il est employé vraiment avec des guillemets. C'est ce que j'explique dans mon livre, c'est que c'est un terme qu'on a un peu dévoyé de son sens pour désigner une population en fait très large et très disparate avec un terme unique, alors que les parcours sont pas du tout les mêmes. Et puis qu'on a aussi utilisé le terme pour les familles de ces hommes et leurs descendants, ce qui ne devrait pas être fait. Justement, quand j'étais ici, quand je suis allée à Ongles au musée, les conservateurs du musée ont fait cet effort, cette précision de penser, de parler en permanence d'anciens supplétifs. Parce que ces hommes qui ont été supplétifs, une fois qu'ils arrêtent de l'être, ils ne le restent pas. C'est pas quelque chose qui leur est passé dans le sang. Donc voilà, d'utiliser les mots vraiment à leur juste place.
Et on voit bien dans votre livre qu'Ali n'est pas harki, effectivement. Et il y a une confusion qui s'installe lorsqu'il arrive notamment à Rivesaltes.
Oui, et c'est le moment où on regroupe tous ces gens à la fois sous une même étiquette et puis dans un même lieu. Et comme le gouvernement français, les autorités françaises ont très peu envie de s'en occuper, ne voulaient même pas que ces gens passent en France à la fin de la guerre, elles vont pas s'embêter à leur chercher des noms qui soient pluriels. Elles les parquent dans un même endroit avec une seule histoire qui est que ce sont des gens qui se sont engagés au nom d'un amour sans faille pour la France. Et donc là, à ce moment-là, la parole, elle leur est volée à ces gens. D'abord parce qu'ils sont dans un lieu qui est hors du monde, qui est hors du pays, qui est derrière des barbelés, qui est pas vraiment un lieu de vie, parce que ce sont des gens qui, pour beaucoup, parlent peu, mal le français, et donc il y a cette peur de s'exprimer, et puis parce qu'on leur colle une version officielle à laquelle ils doivent se tenir, sans leur laisser exprimer leurs doutes, leurs regrets, le fait que, pour certains, c'est extrêmement douloureux d'avoir laissé derrière eux ce pays, surtout pour trouver un pays qui ne les accueille pas, comme eux imaginaient qu'ils pourraient être accueillis.
Dans votre livre, il y a un passage très particulier où il y a un journaliste, et vous avez retrouvé ce document sur l'INA, un journaliste qui pose des questions extrêmement paternalistes aux enfants et puis aux adultes, avec des réponses qui sont très nuancées, mais en même temps très puissantes.
En fait, ce qui est très très dur dans ces images, c'est qu'on voit aussi que les personnes qui sont interviewées ont cette peur de parler mal le français, donc sont très très hésitantes dans leurs réponses, et puis ont cette peur de se faire renvoyer s'ils ne disent pas les bonnes choses. Et donc, ils vont dire en effet, je vais oublier l'Algérie, il faut oublier l'Algérie, à partir de maintenant, je suis français. Il n'y a que les enfants qui sont honnêtes, finalement. Il n'y a que les enfants qui disent que l'Algérie leur manque, qui sont pas contents d'être ici, et en même temps, ce sont les enfants qui, eux, vont s'adapter et réussir à faire de ce pays-là le leur, alors que les parents qui mettent une bonne volonté énorme à jouer les Français pour se faire accepter par les autres vont généralement ne jamais tout à fait réussir à s'intégrer, à s'approprier la langue, à s'approprier les lieux, etc.
Avec une réponse terrible du journaliste qui dit « Oui, tu préfères l'Algérie parce qu'il y fait plus chaud ». Ça veut dire qu'il n'a rien compris. Il n'a rien compris ni au drame qui se passe, ni au drame qui va se jouer, parce qu'après, il y a deux générations, dont la vôtre, Alice Zeniter, qui va souffrir de ce silence ou de cette absence de la langue française.
Il y a deux générations qui vont avoir du mal à comprendre ce qui s'est passé, à se situer politiquement par rapport à ça, et à comprendre et donc à pardonner, pour tenter qu'il y ait quelque chose à pardonner à Ali. Ce sera notamment le cas pour son fils aîné, Hamid, qui lui donc arrive en France, devient un peu à ce moment-là le père de sa fratrie, puisque son père est incapable d'intégrer les codes et de répondre à ce qui lui est demandé dans ce pays. Il parlera jamais correctement la langue, etc. Il est analphabète. Et Hamid, lui, en arrivant à l'adolescence, c'est dans les années 70, il va se politiser très très fort, à s'intéresser à Marx, s'intéresser à Mao, s'engager dans la lutte contre la guerre du Vietnam. Et à partir de là, à partir de ses positions politiques nouvelles et brûlantes, tout à coup se retourner sur la trajectoire de son père et ne pas comprendre du tout ce qui s'est passé, ne pas comprendre comment son père a pu ne pas être du côté de l'indépendance. Et il y a un fossé qui se creuse entre les deux, qui va culminer culminer dans la scène où Ali gifle son fils et tous les deux arrêtent de se parler pendant un temps infini, parce que le silence fait qu'on peut rien comprendre ni s'expliquer et que tout a l'air d'avoir été un très mauvais choix.
Avec aussi la présence de Naïma, autrement dit la troisième génération, Naïma qui, de manière presque fortuite, va pouvoir retourner en Algérie et elle appréhende ce retour.
En fait, Naïma, du coup, elle a grandi sans vrai lien avec l'Algérie. Ou plutôt ce qu'elle appelle l'Algérie, de manière un peu inconsciente, c'est l'appartement de sa grand-mère, ou c'est même sa grand-mère. Son Algérie à elle, personnelle, c'est Yéma et l'appartement du Pont-Ferron. Et elle pense, pendant toute sa vie, Naïma, que ça n'est pas grave, enfin que l'Algérie, la vraie, lui est bien égale. Et en effet, dans la galerie d'art dans laquelle elle travaille, elle va se retrouver à travailler sur une exposition autour d'un vieux peintre algérien, et à devoir partir à la recherche de ses dessins de l'autre côté de la Méditerranée, et tout à coup à se demander si ce voyage ne va pas venir bouleverser un ordre familial qui est instauré depuis 60 ans. Et en fait, elle va perdre le pays perdu au moment où il va devenir un pays réel. Parce que dans sa famille, l'Algérie s'est figée en 62, s'est fossilisée en 62. C'est comme si le pays n'avait pas continué à avoir de réelle existence. Et donc Naïma va faire le voyage qui fait surgir le pays du silence et qui rappelle que le pays n'a pas arrêté de vivre et d'évoluer au moment où sa famille en est partie. Donc c'est pas cette chose sous une petite cloche de verre, c'est un vrai pays.
En même temps, il y a la crainte, la peur, quand Naïma doit dire à quelle date sa famille est arrivée en France, cette date de fatidique de 62 qui va permettre aux autres personnes, a priori, de mettre des étiquettes sur sa famille et elle va en subir les conséquences. Alice, vous avez passé plusieurs semaines, plusieurs mois ici même à Manosque, vous êtes documentée, vous avez croisé aussi beaucoup de gens. Quelle a été la part de votre résidence pendant les correspondances dans la rédaction de L'Art de Perdre ?
Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que quand j'étais ici, je pensais pas que ce que je le faisais pour écrire un livre. J'étais ici, j'écrivais un autre livre qui se passait en Écosse, qui n'avait absolument rien à voir avec cette histoire. Puis je me suis dit que quand même, c'était une occasion d'approcher un petit peu ce passé de ma famille que je connaissais très très mal, et du coup de l'approcher par des trajectoires sensibles aussi, de me dire je vais me tenir dans un lieu où mon père et mon grand-père et ma grand-mère ont vécu pendant quelques temps. Je vais partager certaines sensations avec eux à travers les années. Et donc j'ai fait ça. Je suis allée me balader là où il y avait le logis d'âne et je raconte cette chose dans le livre de Naïma qu'il fait, qui escalade le portail, qui marche dans les pins puisque la végétation a repris ses droits après la destruction des logements. Et donc il y a vraiment plus que quelques traces de vie, il y a une bouche d'égout, mais on n'arrive pas à imaginez que pendant des décennies, cet endroit a été un village, une petite ville réservée à ceux qu'on appelait les harkis et à leurs familles. Et de la même manière que quand je suis allée en Algérie, je le faisais pas pour écrire L'Art de Perdre. C'est plus tard, quand j'ai commencé vraiment à l'écrire, je me suis dit mais je n'aurais jamais pu l'écrire s'il n'y avait pas eu les voyages en Algérie, s'il n'y avait pas eu ce temps à Manosque, si je ne connaissais pas les paysages dont je suis en train de parler, si j'étais pas allée à Ongles où il y a énormément de photos aussi de ces familles qui sont en train d'arriver chargées avec quelques objets qu'elles ont décidé d'apporter de leur maison à travers la mer. Il y a un décalage horaire entre ce que m'a apporté la résidence et le moment où j'ai commencé à écrire, mais il est évident que sans cette résidence, il n'y aurait pas L'Art de Perdre.
Il y a ce symbole aussi de la Méditerranée entre les générations, la première génération qui dit c'est un mur la Méditerranée, et puis la deuxième qui dit au contraire il faut mettre un pont entre la France et l'Algérie. Comment vous voyez-vous le futur de l'Algérie et subséquemment donc le futur de la France sur ces questions-là ?
Écoutez, j'en ai aucune idée. Moi, je suis écrivaine avant tout, et donc j'ai pas d'analyse géopolitique pertinente à livrer. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que finalement, la fiction est un meilleur pont d'une rive à l'autre et sur l'histoire des deux rives que peut l'être la politique. Les relations franco-algériennes sont longues, épineuses. Et chaque phrase sortie de son contexte, chaque phrase courte, occulte toujours un des pans de cette relation et donc va toujours choquer quelqu'un sur une rive ou sur l'autre. Et c'est pour ça que je pense que là, la fiction a un énorme avantage. C'est que déjà, elle peut s'installer dans un temps beaucoup plus long, sur des centaines de pages, avoir des nuances, tracer des trajectoires de vie qui se répondent, qui se complètent et qui évitent ce côté résumant la colonisation, la décolonisation et l'avenir en une phrase. Ça, c'est impossible. Ou en tout cas, je laisse ça aux politiques et les conséquences également.
avec un aspect important aussi, c'est que le livre touche une à une les personnes qui le lisent. C'est important.
Alors comment ça, une à une ?
C'est-à-dire qu'on est obligé de lire un livre seul et pas du tout de répondre en tant que groupe.
Je pense que dans la solitude de la lecture, on peut aussi avoir une facilité d'identification au personnage qui vient du fait qu'on n'arrive pas en tant que groupe. Le livre parle aussi de ce problème des gens qui constituent des camps et des eux contre nous qui arrivent à chaque fois qu'on est plusieurs, cette identité de groupe qui est toujours très très fortement en opposition avec les autres. Et la lecture, en effet, la lecture comme exercice solitaire empêche cette sorte d'instinct de groupe à « ça n'est pas moi, dont ça n'est pas nous dont on parle, enfin, vous êtes nos ennemis, nous nous défendons. »
Merci Alice. Retour en plateau, nous allons parler du premier livre, c'est un premier roman de Victor Pouchet, Pourquoi les oiseaux meurent. Il est en notre compagnie. Bonjour Victor Pouchet.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir ici même à Manosque. Manosque que vous connaissez un petit peu déjà, nous allons en parler plus en détail avec vous. Pourquoi les oiseaux meurent, c'est paru aux éditions Finitude et c'est distribué par Harmonia Mundi, autrement dit par une maison qu'on connaît bien en termes de musique ici même à Fréquence Mistral. C'est un premier roman où l'auteur mêle un peu de sa vie, de celle de sa famille et une fiction qui pourrait ne pas l'être. Nous allons voir ça. L'idée, c'est une enquête que mène le narrateur sur les lieux de son enfance à la poursuite d'une énigme. Des pluies d'oiseaux morts surviennent en Normandie à quelques jours d'écart et sans explication. Quelques lignes dans la presse et le nom de son village où vit encore son père, un ennui certain et soudain la volonté de savoir et d'expliquer ces morts massives. On suit Victor en croisière sur la Seine, vitesse lente pour faire mûrir ses réflexions, dans une cathédrale qui sent l'encens, dans la maison de son enfance, les jardins de Claude Monet à Giverny ou encore au muséum de Rouen qui fut fondé par un aïeul de l'auteur, Félix Archimède Pouchet, et on croise des personnages dont la seule utilité est de répondre aux questions de Victor Pouchet sur les oiseaux. On ne peut pas s'empêcher de penser à un célèbre film d'Hitchcock, vous en parlez d'ailleurs, mais aussi à des faits divers survenus. Victor, ces pluies d'oiseaux ont-elles vraiment existé ?
Alors tout à fait, c'est un phénomène qui a eu lieu dans plusieurs endroits dans le monde et que j'ai découvert il y a quelques années. Ça a eu lieu dans le Colorado, en Suède, sur l'île de la Réunion, dans pas mal d'endroits. Et c'est donc des grandes pluies, ces oiseaux qui vivent en grands groupes comme les étourneaux. Et on en trouve parfois des centaines, parfois des milliers, morts donc sur un champ de dizaines de centaines de mètres, parfois un peu plus large.
On peut en trouver sur une plage en Normandie aussi ?
Eh bien moi justement, en effet, j'ai décidé de pas traverser le monde pour cette aventure, mais de placer ces pluies le long de la Seine. Je tenais en fait à ce que ça soit proche de moi, à ce que l'enquête et l'aventure se mènent vraiment à proximité. Et j'avais l'envie de découvrir un paysage qui est à la fois très très habituel lorsqu'on est parisien, on connaît les boucles de la Seine, on en connaît des morceaux. Et je voulais que là, ça soit traversé avec un autre regard, un regard attentif qui soit aussi évidemment porté par une forme d'inquiétude de ces pluies.
Vous avez fait des recherches ornithologiques sur les noms, les espèces des oiseaux ?
Alors ornithologique pas vraiment parce que j'ai pas de formation ornithologique, mais je me suis intéressé en tout cas à tout un tas de phénomènes autour des oiseaux, alors pas simplement des pluies mais qui se rapprochaient de cette question. Donc j'ai exploré à la fois dans les livres très anciens, dans la Bible, chez Pline l'Ancien, mais aussi dans une histoire plus récente, par exemple dans l'histoire du maoïsme, avec quelque chose que j'ai découvert, c'est l'organisation par Mao de la de l'extermination en 1958 de tous les moineaux du sol, ou plutôt du ciel de la Chine, dans un projet complètement dément tel que pouvait les mener Mao.
Avec certainement un dérèglement écologique à la clé en plus.
Exactement, évidemment, ce genre de choses qui partaient d'une ambition... agricole, puisqu'il avait pensé, enfin ses conseillers agronomes lui avaient conseillé de se séparer, d'éliminer les moineaux pour que ces moineaux ne cessent de se nourrir des graines. Et évidemment, ces moineaux ne se nourrissent pas uniquement des graines, ils mangent également les insectes. Et donc, après cette grande extermination, les Chinois ont déversé toutes sortes de produits chimiques pour éliminer ces insectes, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus notamment d'abeilles en Chine, et que les Chinois sont obligés de polliniser manuellement leurs arbres fruitiers.
Si ça pouvait servir d'exemple à certains de nos compatriotes qui notamment manifestent à Paris devant un ministre actuellement et pour défendre un produit qui est très dangereux et notamment pour leur santé. Mais enfin, bon, fermons la parenthèse. Victor, il y a une superbe couverture dans votre livre, Pourquoi les oiseaux meurent, qui est une couverture très colorée et en même temps une couverture peinte.
Oui, c'est une planche du Nouveau Larousse illustré de 1897, et elle est peinte par un certain Adolphe Millau, qui était professeur de dessin au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que ce professeur de dessin, il pourrait presque être un personnage du roman, parce que je m'intéresse à un certain nombre de naturalistes, à cet esprit scientifique du 19e siècle également. Et je suis très content que mon éditeur m'ait proposé cette couverture, parce que donc c'est en effet des oiseaux exotiques très colorés avec des formes évidemment très variées, des oiseaux de paradis notamment.
Et vous avez un lexique à la fin de
oui, en effet,
votre livre.
La liste des oiseaux est donnée.
Ça s'appelle même casting de la couverture.
Ouais,
autrement dit, ce sont des acteurs.
Hein.
Alors vous avez l'astrapie noire, l'astrapie stéphanie, le paradisier rouge, le docimastre porte-épée, Célaphore, des trochiles colubris, pétasphore. Enfin bref, c'est des noms qu'on n'a pas franchement l'habitude de prononcer.
Non, c'est vraiment des oiseaux exotiques. En fait, ce qui me plaît, c'est que donc il y a cette couleur. Évidemment, elle vient contraster un petit peu ce que le titre pourrait annoncer d'un peu plus funèbre. Pourquoi les oiseaux meurent ?
Alors parlons-en du titre justement. Ouais. Il n'y a pas de ponctuation. Est-ce que c'est une affirmation ou c'est une question ? Pourquoi les oiseaux meurent ?
Eh bien, justement, j'ai notamment évidemment réfléchi longuement à cette question. J'en ai parlé aussi avec mon éditeur. Je tenais à ce qu'il n'y ait pas de point d'interrogation. En fait, je me suis posé la question parce qu'en fait, sans point d'interrogation, on peut imaginer que c'est les deux. À la fois, c'est une question prononcée sur le mode enfantin, pourquoi les oiseaux meurent, non pas pourquoi les oiseaux meurent-ils, si on devait respecter l'inversion. Et en même temps, on peut aussi l'entendre comme une affirmation, enfin quelque chose qui n'est pas interrogatif. Je vais traiter sur la mort des oiseaux, pourquoi les oiseaux meurent, c'est-à-dire l'idée que cette question est réglée. Et le livre est porté par ces deux choses, à la fois par une sorte d'ambition encyclopédique, on va traverser tout ce que les pluies animales, tout le mystère de la pluie d'oiseaux, et évidemment par des mystères qui resteront en partie irrésolus.
C'est toute la quête du narrateur qui vous ressemble, même si il n'est jamais nommé, et pourtant il parle à la première personne, donc du singulier. On va faire un raccourci très rapide, et effectivement c'est Victor Pouchet.
Alors je vais refuser ce raccourci très rapide. En effet, oui, il y a des coïncidences. Il y a un nom, il y a le nom Pouchet. Il croise notamment cet ancêtre, Félix Archimède Pouchet, fondateur du Muséum d'Histoire Naturelle de Rouen. Mais je lui ai pas donné de prénom. Alors évidemment, c'est peut-être un petit peu une façon de moi-même défiler. Mais c'est une reconstruction, c'est une invention. C'est-à-dire que c'est aussi le plaisir et la force de la fiction. On peut se réinventer des doubles.
C'est pas une coquetterie, quoi.
Non. J'avais besoin qu'il s'appelle Pouchet parce qu'il croise ce personnage qui a réellement existé, Pouchet, Félix Archimède. Mais le personnage, voilà, je n'ai pas de lien réel avec la Normandie, je n'y ai pas grandi. C'est un territoire que je m'invente pour une recherche et pour une quête des origines. Mais voilà, il y a évidemment la reconstruction fictionnelle qui est essentielle.
Alors ce personnage, lorsqu'il était enfant, ce jeu Pouchet, il a subi, entre guillemets, les lectures à voix haute de son père, le père du narrateur. Parmi ces lectures, excusez du peu, Mark Twain, Walter Scott ou bien L'île au trésor de Stevenson, ces lectures l'ont poussé vers l'aventure, selon vous ?
Oui, tout à fait. Alors il les a pas subies, il les a vraiment, je pense... accueillis et les a
avec
reçus
avec jubilation, hein.
Avec énormément de plaisir. Et ces romans d'aventure, notamment L'île au trésor, ont été très très importants pour moi dans l'écriture du livre. Ils ont été un peu une sorte de modèle, enfin quelque chose qui était aussi très sédimenté dans mon esprit, mais qui m'a guidé, parce que ce sont des romans d'aventure. Mais le roman d'aventure, on peut parfois penser que c'est un roman léger avec de l'action. Or, L'île au trésor, c'est aussi un roman très noir qui commence par la mort du père du petit Jim Hawkins, qui va du coup s'inventer des pères de substitution dans ce bateau de pirates. Et évidemment, il y a aussi une quête initiatique d'éducation dans L'île au trésor et un rapport à des pères possibles.
Et l'histoire de Huck Finn ou de Quentin Durward, par exemple, c'est pas très rigolo quand on y pense aussi. C'est un peu la misère, même si ça fait sourire de temps en temps. Et en plus, la guerre pour ce qui est de Walter Scott. Vous avez parlé tout à l'heure de votre ancêtre, Félix Archimède Poucher, qui a créé le musée d'histoire naturelle de Rouen. On voit le jeu qui promène dans le musée, d'ailleurs, c'est assez, assez intéressant. Votre ancêtre s'est affronté à Louis Pasteur. Et il a défendu la génération spontanée contre la microbiologie. Et en fait, c'est la science qui a gagné. Et Félix Archimède Poucher a perdu.
Oui, alors je précise que ce n'est pas mon ancêtre. Je le rêve comme mon ancêtre. C'est un ancêtre rêvé. J'ai l'impression.
C'est juste une coïncidence. Donc
c'est une coïncidence onomastique et qui m'a tellement plu et ce personnage m'a tellement plu. Enfin, j'ai senti une forme de fraternité aussi.
Alors ce jeu est un autre. On est d'accord.
Exactement. Et en effet, c'est un personnage qui est resté dans l'histoire pour une grande controverse qu'il a opposée à Pasteur, la controverse de la génération spontanée. Et il est resté dans l'histoire parce qu'il a perdu contre Pasteur. Pasteur, à l'occasion de cette controverse, donc Félix Archimède Poucher défendait l'idée de la possibilité d'une génération spontanée, donc des petits animalcules, des micro-organismes qui naîtraient sans génération, sans parents. Et Pasteur va, donc c'est une controverse qui va être très longue. Pasteur va y avoir une série d'expériences en public avec arbitrées par l'Académie des sciences. Pasteur va démolir la théorie de Félix Archimède Poucher et c'est à ce moment-là qu'il va découvrir le microbe, donc ces micro-organismes invisibles même au microscope. Et ce qui me plaisait énormément, c'est que Félix Archimède Poucher néanmoins défend cette théorie envers et contre tout, et envers
peut-être. Et qui devait être dans l'air du temps, en plus, à l'époque, au 19e.
Oui, alors en effet, il est l'héritier de toute. C'est une théorie. La génération spontanée, c'est quelque chose qui précède, enfin, qu'on retrouve évidemment chez Pline l'Ancien, chez plein de naturalistes au cours des siècles. Et ce qui est très beau, ce qui m'a marqué, moi, c'est que cette théorie, évidemment, peut-être si sa teneur scientifique n'est pas exacte, elle a une teneur poétique et une teneur philosophique qui, moi, me plaît particulièrement, puisque c'est l'idée que on peut en tout cas imaginer être libéré de la filiation, être libéré de l'héritage, donc de tout ce que ça peut
générer, et exactement. En fait avoir une explication scientifique, et des fois la poésie va au-delà, bien au-delà de la science. La poésie, justement, vous maîtrisez parfaitement le français, vous êtes professeur de littérature.
Ouais.
C'est important à savoir, ça aide quand on écrit.
J'espère,
figurez-vous.
Que ça s'entend pas trop.
Hein. ça aide. Je vais lire un passage de votre livre qui est un passage où on va pas dévoiler la fin du livre, mais ce cheminement en particulier de ce jeu qui est un autre, donc et c'est tout simplement un passage où il y a une part de poésie par rapport à tous ces oiseaux morts. Alors c'est l'auteur, c'est vers la fin du livre et c'est très très particulier. J'ai pris un oiseau dans les mains, j'aurais aimé sentir encore sa chaleur, mais ça devait faire longtemps que le froid avait pris le dessus. Son plumage avait quelque chose de poisseux et de doux, et j'ai eu envie un instant de caresser mon visage avec. Je me suis ressaisi et je l'ai retourné dans mes mains. Ses pattes étaient crispées et dures, comme si l'oiseau avait été électrocuté d'un coup. L'odeur du goémon se mêlait à une senteur de charogne. J'avais la gorge et le nez qui piquaient. J'ai tenté d'estimer le nombre d'oiseaux. Sur 1 mètre carré, il y en avait 2. La plage devait faire 100 mètres de long sur 15 de large. Ça faisait 1500 mètres carrés, soit 3000 oiseaux morts environ. Est-ce que la fin du monde ressemblerait à ça ?
Oui, alors c'est peut-être pas le passage le plus engageant pour que les gens aient envie de lire le livre.
Non, mais ça, c'est révélateur de votre style. C'est-à-dire que c'est un style, je dirais, presque coquin, où on fait passer des choses qui sont pas très agréables, mais on les fait passer de très très belles manières, de se dire, bon, ben attends, si j'ai deux oiseaux ici, là ça fait tant, etc. Donc a priori, au niveau statistique, ça devrait faire environ 3000 cadavres. Vous dites pas comme ça, oh ben il y a environ 3000 cadavres. Non, il y a l'explication, il y a la recherche. Et puis de prendre ce petit moineau qu'on imagine, ou cet étourneau, peu importe, et de dire, tiens, à un moment, il a été, c'était un animal magnifique qui fait quelque chose que l'homme rêve de faire, il vole, il arrive à prendre de la hauteur, et il devait être très doux, il devait sentir bon aussi. Et là, il est crevé.
Ouais, et il sent marqué, la charogne. Ouais, ce qui m'a marqué au moment où j'ai découvert ces petits oiseaux, c'est en effet l'étrangeté de la perte de ce qui est l'essence première des oiseaux, c'est-à-dire leur capacité à voler. Et pour revenir sur ce passage, à ce que vous en disiez, en effet, ce personnage, il est un peu... il rend une forme d'attention à ce qui l'entoure, qui l'oblige à une forme de minutie, une sorte d'intérêt pour le minuscule et pour aussi ce que le minuscule a de saugrenu, d'insensé. Et je tenais beaucoup à la fois à cette minutie, à cette précision, et en même temps qu'il y ait, comme vous l'évoquiez aussi, quelque chose de léger, de souriant parfois, et que les deux soient mêlés, c'est-à-dire qu'il y ait quelque chose d'inquiet, mais aussi quelque chose comme une curiosité ouverte et parfois souriante à ce qu'il découvre.
Alors le narrateur, il a sa propre vie, hein, sa vie à Paris, il a ses amis, sa petite amie, etc. Et ses petites manies aussi, quelque part. Et c'est tout d'un coup un reportage à la télévision qui va tout déclencher. Et il est dans une surexcitation incroyable. Il dit mais c'est chez moi que ça se passe là. C'est là où j'ai passé mon enfance et tout. Oh là là, mais c'est incroyable, une pluie d'oiseaux. Évidemment, il repense à Hitchcock à ce moment-là, en se disant tiens, c'est moins cinématographique que ce que je pense. Je vais aller voir ça de près. Et c'est là où il prend cette décision de partir sur la Seine, faire une croisière avec la princesse of the Seine, c'est ça?
Seine princesse.
Ouais. Bon, je sais pas à qui vous faites allusion ici, mais bon, il y a beaucoup de bateaux qui se sont appelés princesse of quelque chose dans la littérature. Et il se dirige donc en Normandie jusqu'à ce pays qui est curieusement nommé aussi.
Oui, alors en effet, c'est un personnage qui vit à Paris, qui est un peu désœuvré, on pourrait dire, qui a une thèse, qui est en déshérence, qui est voilà, une relation amoureuse qui s'est finie, qui s'ennuie, qui est un peu flottant entre deux eaux. Et en effet, quand il tombe sur cette nouvelle, c'est quelque chose qui relance un peu. Il cherchait finalement une aventure dont il pouvait se saisir. Il cherchait un cheval de bataille, presque, on pourrait dire. Et son cheval de bataille, ça va être les oiseaux morts. Et le moyen qu'il choisit, c'est de s'embarquer sur un bateau. Et évidemment, c'est pas le bateau majestueux d'Ulysse en mer Égée, ni un yacht cinglant dans le golfe du Mexique. C'est une péniche qui transporte essentiellement des retraités ou des personnes voilà, qui ont aussi le temps pour ce genre de voyage.
Il y a des personnages attachants
sur le
bateau.
Exactement. Et donc un bateau comme ça qui descend la Seine jusqu'à Honfleur pour avec un certain nombre de haltes pour haltes touristiques. Et donc lui s'embarque dans une péniche où il est un peu à part parce que il est beaucoup plus jeune, que les gens viennent faire du tourisme et que lui il vient enquêter. Et
il a une idée fixe.
Voilà, il est. Mais en effet, il va rencontrer sur cette péniche un certain nombre de personnages attachants. Un personnage qui s'appelle Jean-Pierre, qui est un ancien ingénieur en armement, qui va le guider. Un pianiste, poète et un peu excessif.
Qui aime bien boire, par exemple.
Voilà, une une jeune fille qui travaille, qui est capitaine du bateau. Donc c'est un lieu, moi ça me plaisait beaucoup évidemment qu'il s'embarque parce que ça évoquait ces romans d'aventure dont on parlait tout à l'heure, mais ça me plaisait aussi qu'il s'embarque sur un bateau qui va avoir son propre rythme, et moi ça me permettait de suivre les boucles de la scène, d'avoir des pauses, d'avoir des stases comme ça, qui permettaient de s'intéresser à d'autres choses, d'ouvrir des parenthèses, des digressions, et néanmoins qu'il y ait la trace un peu mineure de l'aventure marine.
J'attends toujours que vous prononciez le nom de ce village, qui est un village, un nom magnifique en plus, le village dont il est originaire.
Oui, c'est le village de Bonsecours.
Bonsecours, ça existe ?
Ça existe exactement.
C'est vrai.
C'est un village, une ville qui est juste à côté de Rouen, qui est vraiment qui est frontalière avec Rouen, qui est un assez beau village sur une falaise au-dessus de Rouen. Évidemment, j'ai choisi cette ville pour plusieurs raisons, notamment parce que donc elle était sur ce chemin, et pour le nom qu'elle porte, Bonsecours, puisque c'est évidemment un livre qui est porté par une forme d'angoisse métaphysique, une forme d'enquête ornithologique, mais qui est aussi une enquête métaphysique sur la mort, et donc sur le salut, et sur le secours, la possibilité d'un secours.
Et d'essayer de sauver les oiseaux, donc, pour ce qui est de cette intrigue.
Exactement.
Victor Pouchet, vous êtes présent aux correspondances de Manos, c'est pas la première fois que vous venez à Manosque, vous connaissez assez bien pour des raisons familiales la ville de Manosque et ce festival. Comment vous le trouvez, ce festival des correspondances ?
Oui, alors je suis très heureux d'être là, parce qu'en effet, ma tante Laetitia Fourquin, qui travaille également pour les correspondances avec son association pour la lecture pour les jeunesses, m'accueille. Donc c'est toujours un plaisir de la retrouver.
Et on l'accueille régulièrement ici, oui, même, vous le savez, Laetitia, avec Éclat de Lire.
Et donc je suis toujours très frappé par le monde présent, par la qualité d'écoute des lecteurs qui sont presque partout dans la ville, sur les différentes places de la ville. Et donc c'est un moment très plaisant où moi j'écoute aussi, je découvre des auteurs, des lecteurs, des textes.
Vous avez participé à une rencontre hier, comment ça s'est passé ?
Eh bien, ça s'est assez bien passé. C'était avec une auteure écossaise qui s'appelle Jenny Fagan, qui a écrit un livre qui s'appelle « Buveur de lumière ». Un livre aussi porté par une forme d'angoisse apocalyptique, puisque c'est dans un monde plus ou moins proche qui est devenu complètement entré dans l'ère glaciaire, qui fait moins 50 degrés. Et donc, une conversation assez riche, avec finalement un type de texte très différent, mais un certain nombre de croisements, de coïncidences dans nos deux textes, et donc la discussion était intéressante.
Vous avez également participé à d'autres manifestations au sein des correspondances ?
Oui, hier j'ai participé à une sieste littéraire, je lisais donc deux passages de...
Avec Bastien Lallemand et ses sbires.
Oui, avec ses acolytes, en effet, c'est toujours des moments très... J'avais déjà vu comme spectateur plusieurs siestes, et c'est... comme ça, des moments suspendus, très poétiques, très, avec une forme de douceur, et c'était agréable d'être là, de pouvoir lire quelques pages de mon roman.
Vous écrivez autre chose que des romans ? Vous avez d'autres marottes littéraires ?
Alors, j'écris beaucoup de choses dans des cahiers qui sont des choses que je ne pourrais pas vraiment qualifier, des morceaux, des trucs, des machins, des débuts de romans, des dialogues, mais tout ça produit une sorte de grande de grand cahier de brouillon qui aspire, si les projets avancent comme je le souhaite, à intégrer des textes romanesques ou peut-être...
C'est-à-dire qu'un jour, peut-être un deuxième roman naîtra ?
Je le souhaite, en tout cas je vais essayer d'y travailler, d'y accorder du temps.
Nous, on va suivre ça avec intérêt, hein, parce que déjà, pourquoi les oiseaux meurent nous ont plu, et c'est le cas de le dire, nous ont plu. Et donc c'est une belle chose, et visiblement, moi j'adore recevoir des premiers romans, parce que c'est vrai que recevoir quelqu'un qui a déjà eu plusieurs articles de presse, ou plusieurs interviews, ou plusieurs prix, qui sait, ça arrive parfois ici même à Manosque. C'est pour moi, il y a très peu de saveur en fait. Je préfère recevoir quelqu'un qui est pour l'instant inconnue. On a parlé tout à l'heure, on a entendu Alice Zeniter. Je l'ai reçue plusieurs fois ici même, vous vous en doutez. Et c'est toujours un bonheur de recevoir quelqu'un qui risque en plus cette année. Alice, avec son livre, est très bien placée pour le Goncourt, par exemple. Vous imaginez, je l'ai reçue, moi, il y a 3-4 ans déjà, pour Sombre Dimanche. C'était un grand moment. Et on s'était dit... J'étais pas le seul, évidemment, ici à Manosque, à me dire, tiens, voilà quelqu'un qui peut-être ira loin. Ce sera peut-être le cas aussi de Victor Poucher. On verra bien. On suivra. C'est peut-être pas demain pour vous, pour le.
Bah, pour le moment, je suis sur la liste d'aucun prix, donc je suis protégé de tout ça. Et
vous avez dit le mot protégé, parce qu'effectivement, c'est un danger, la médiatisation. Et on peut quelque part y perdre un peu de son âme. Donc, pour un auteur.
Je vais essayer de rester, de garder ma verdeur.
En tout cas, ce fut un plaisir pour moi de vous recevoir, de parler avec vous.
Merci
de pourquoi les oiseaux meurent. C'est paru, je l'ai dit tout à l'heure, aux éditions Finitude, et c'est distribué par Harmonia Mundi. Victor Poucher, pourquoi les oiseaux meurent. Et puis, bonne correspondance à vous.
Merci à vous.
Continuez
aussi
à être curieux et à écrire. Je sais que vous travaillez aussi un petit peu avec Olivier Chaudançon, et ça doit être une fréquentation plutôt agréable.
Ah, tout à fait, je pourrais pas dire le contraire ici.
Merci Victor, à bientôt.
Merci à vous.
Eh bien voilà, c'est la fin des émissions spéciales de Fréquence Mistral en ce qui concerne les correspondances. Malheureusement, Joyce Ormand a dû avoir un empêchement, elle n'a pas pu être des nôtres. Je signale que d'autres interviews sont prévues des auteurs qui sont présents, notamment Mariam Majidi, puis peut-être Louis-Philippe d'Alembert, peut-être Yannick Enel. Donc nous verrons, et en tout cas dans les jours prochains, nous aurons la diffusion de ces interviews. Aujourd'hui, il y a un très beau programme, Olivier vous l'a dit, Olivier Chaudançon, avec, par exemple, ne ratez pas Mazarine Pinjot à 18h avec Justine Augier, c'est sur la place de l'Hôtel de Ville. Elle sera interrogée par Maya Michalon. Il y a aussi à 15h, un peu plus tôt, Éric Reynard avec la Chambre des Époux. Jean-Marie Blas de Robles et Brigitte Giraud seront aussi en rencontre littéraire à la place de l'Hôtel de Ville à 16h30. Ce soir, il y a des concerts, le concert final des Garçons Manqués, et puis le spectacle qui est donné par Pierre Beau, non, donc c'est non, d'Henri Michaud, un spectacle où on ne devrait pas s'ennuyer non plus. Et puis demain, dimanche aussi, des activités, des rencontres littéraires, des concerts. L'édition 2017 sera finie par un certain Philippe Catherine, qui ne coupera pas le son cette fois-ci. Ce que je sais de la mort, ce que je sais de l'amour, c'est une belle manière de clore ce festival des correspondances. Ce sera à 18h sur la salle, sur la grande salle du théâtre Jean le Bleu à Manosque. Et puis dans la journée, bien sûr, plusieurs auteurs, Patrick Deville, Pierre Ducrozet, ou bien encore Jakuta Alikavazovic et Agnès Mathieu Daudet, ou Alice Zeniter, qui sera aussi en rencontre dimanche, donc à 15h. Yannick Enel aussi, qui a fait un superbe livre, Tiens ferme ta couronne, que tous les cinéphiles devraient lire, parce qu'il y parle d'un certain Michael Cimino. Voilà, et puis aussi, j'allais oublier, Kamel Daoud, très attendu aussi, Zabor ou les Psaumes, une rencontre qui sera animée par Michel Abesca. Ce sera demain matin à 11h sur la place de l'Hôtel de Ville. Voilà, c'est la fin de ces émissions spéciales. C'est toujours un bonheur pour moi de participer à ces émissions et de les organiser, même s'il y a quelques contretemps de temps en temps. Merci aussi Amandine pour la régie. Profitez des correspondances, toutes ces émissions seront disponibles sur notre site fréquencemistral.com, et pour le programme des correspondances, c'est correspondance-manosque.org. Merci, bonne journée, bon week-end et à bientôt.
Merci François, merci tout le monde, une bonne journée sur Fréquence Mistral.